Au jour, je m'appelle Solène, je vis dans l'une des régions les moins peuplées de France. Je suis étudiante et j'ai 19 ans. J'ai fait l'instruction en famille jusqu'à aller à la fac et j'ai besoin de parler de ces questions-là. Enfin, dernièrement, j'ai eu beaucoup besoin de parler. Avant de découvrir cette chaîne, j'ai enregistré une vidéo parce que j'avais besoin de parler de ce sujet-là. Et juste après, j'ai découvert la chaîne. Donc voilà, je refais à peu près la même chose ici.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
Je ne peux pas dire que j'ai toujours été critique du genre ou même féministe, parce que critique du genre, déjà, j'ai compris le concept de genre que très récemment. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est les transactivistes qui m'ont fait comprendre le concept du genre, que avant je ne comprenais vraiment pas, que ce soit quand les féministes en parlaient ou d'autres personnes, je ne voyais pas. Et pour ce qui est du féminisme, c'est un peu particulier. Parce que j'ai grandi dans une famille où on était à la fois trop féministe pour beaucoup de gens et pas assez pour d'autres. Disons trop féministe sur le fond et pas assez sur la forme, ce serait comme ça que je le définirais. Ma mère est féministe, mais elle est militante, mais pas féministe. Elle est militante sur d'autres choses qui lui tiennent extrêmement à cœur, mais elle a jamais ressenti le besoin de militer pour le féminisme parce qu'elle n'en a jamais eu le besoin, s'est jamais retrouvée dans une situation où elle s'est dit que ça allait être le combat qu'elle allait mener. Mon père, lui, il nous a toujours dit qu'un homme ne pouvait pas être féministe, du coup il l'était pas. On l'a même traité de viriliste assez récemment par une féministe. Mais en fait, le point de fond qui fait que beaucoup de gens trouvaient que notre famille était trop féministe sur le fond, c'est le fait que notre maison, l'entreprise de ma mère, du coup, on vit ça, toute la famille, tout appartient à ma mère. C'est sur l'initiative de notre père, parce que quand on était jeune, ma mère lui a dit qu'ils allaient partager normal et tout, et lui, il n'a pas voulu. En fait, lui, après avoir étudié beaucoup les sociétés matrilinéaires et tout, il en est venu à la conclusion que celui qui possède le pouvoir physique n'a pas à détenir le pouvoir matériel. Donc, rien ne lui appartient et c'est son choix. Du coup, ça a donné des situations assez étranges, comme le fait qu'il se soit fait traiter de viriliste récemment, mais qu'en même temps, même les plus acharnés des militantes s'inquiètent pour lui quand ils apprennent le fonctionnement de notre famille. Il aime bien dire cette phrase-là pour expliquer en gros comment ça marchait, parce que récemment, il y a eu des problèmes avec l'instruction en famille et une députée lui a dit qu'en gros que l'instruction en famille réduisait les femmes encore au simple fait d'être une mère qui s'occupait des enfants à la maison, parce que c'est en majorité les femmes qui restent à la maison pour s'occuper des enfants dans ces situations-là. Il lui a répondu que il savait pas parce que dans notre situation, quand notre père s'occupait de nous, notre mère travaillait pour son entreprise, mais quand notre mère s'occupait de nous, notre père travaillait pour l'entreprise de notre mère. Donc c'est un peu comme ça que fonctionne notre famille. C'est la situation de base qui fait que ça a été très étrange du point de vue d'autres féministes et tout, parce que avant de savoir ça, il y a eu beaucoup de critiques, de sous-entendus, comme quoi notre mère elle est féministe, c'est pas assez ceci, pas assez cela, et puis quand ils apprennent ça, bah, d'un coup ils s'inquiètent pour notre père, pour sa situation. J'ai deux sœurs plus jeunes que moi, dont je suis très proche, et qui ont vécu la même vie. On n'a jamais été limité par le fait d'être des fils ou par le fait de ne pas être des garçons, c'est on a toujours pu faire ce qu'on voulait. Jamais on nous a rapporté au fait qu'on était des filles. En fait, on était des enfants qui ont ce qu'ils avaient envie de faire. On jouait avec les jeux qu'on voulait, on faisait les activités qu'on voulait. Et à aucun moment, quelqu'un qu'on considérait comme assez important pour que c'est de l'importance pour nous, nous a dit que ce qu'on faisait, c'était des jeux de garçons ou qu'on ne devrait pas faire ça parce que c'était pas assez féminin ou ce genre de choses. Quand j'étais enfant, les autres enfants me disaient que j'étais un garçon manqué car je ne traînais qu'avec les garçons. Et la plupart des filles que je côtoyais quand j'étais petite ont dit à un moment ou à un autre, j'aimerais être un garçon. C'était à l'école maternelle à l'époque. Et moi, Maud, mes 5 ans, je les trouvais un peu bêtes parce que pour moi, il n'y avait pas besoin d'être un garçon pour faire ce que les garçons faisaient, grimper aux arbres, jouer dans la boue, jouer au foot, jouer avec des épées. Pour moi, il n'y avait pas besoin de ça. Du coup, je ne comprenais pas le désir de toutes les autres petites filles d'être des garçons. Je détestais qu'on m'appelle un garçon manqué, même si ça ne me dérangeait pas qu'on me prenait pour un garçon au premier abord. Mais j'étais fière d'être une fille. Et du coup, je n'aimais pas quand les autres adultes me disaient que j'étais un garçon manqué après avoir su que j'étais une fille. Durant mon enfance, vers mes 8 ans, je me suis mise à trouver les filles désagréables. Mais ça m'est passé à cette période-là de ma vie que c'est devenu assez dur parce que pour les relations avec les garçons, il suffisait d'une bagarre assez simple. Il y a même des exemples. À un moment, tu as un garçon qui voulait pas que je joue avec eux au chevalier et tout. Et du coup, j'ai pris l'épée et je lui ai dit, bah, on va voir si tu veux pas que je joue avec toi parce que je suis pas assez forte. Et bah, une petite bagarre et c'était terminé. Alors que la plupart des filles de mon âge me faisaient plein de remarques comme pourquoi tu t'habilles comme ça. Pourquoi tu restes avec les garçons? Pourquoi tes cheveux ils sont courts? Plein de remarques qui me blessaient assez en fait. Maintenant que j'y réfléchis, à l'époque je comprenais pas. Du coup, ça m'a encore plus écartée des filles quand j'étais petite. Mais j'ai jamais remis en question le fait que je sois une fille. Voilà, j'étais très fière d'être une petite fille. Mais disons que j'ai grandi avec les garçons. Du coup. Et mes sœurs aussi. On était trois filles, mais on a grandi plus entourées de garçons que d'autres filles. Voilà. C'est aussi pendant l'enfance que j'ai su ce qu'était un transsexuel, parce que j'ai toujours été consciente de leur existence, parce qu'un ami se trouvait être un homme transidentifié femme, quelqu'un de notre entourage. J'ai toujours su ce que c'était. Et puis, il est arrivé deux événements qui ont changé ma vie et qui m'ont fait entrer dans les mondes militants. Donc tous les mondes militants différents, écologistes, féministes, ou même ouais, toute la frange militante. Tout d'abord, nos parents nous ont retirés de l'école parce que la maîtresse était abusive envers les enfants et surtout envers les petits garçons. Du coup, ils nous ont sortis. Ils nous ont donné le choix si on voulait retourner à l'école du village d'à côté ou arrêter l'école. Et nous, on a décidé d'arrêter. Donc je suis allée à l'école que jusqu'en CP. Et on a fait l'IUF, donc instruction en famille, à partir de ce moment-là. Et je n'en suis retournée dans le système scolaire que récemment. À peu près au même moment, il y a eu un projet d'incinérateur qui s'est fait près de chez nous. Et il y a une lutte qui s'est engagée. Il y a même eu la création d'une ZAD. Et c'est sur la ZAD que j'ai découvert que, on pouvait faire fi de nos divergences politiques et idéologiques pour se battre pour quelque chose d'important, de plus important que les petites querelles qu'on avait. Et c'est après la ZAD, après cet événement, que on s'est mis à fréquenter et à parler à tout le monde, vraiment tout le monde, des royalistes aux communistes, des anarchistes, de droite, de gauche, qu'importe, et même des machos avec lesquels ma mère avait des discussions assez enflammées, certains d'homosexuels, d'autres que je dirais qui sont homophobes. Vraiment, presque toutes les personnes ont parlé à tout le monde. Et c'est avec ça que j'ai appris que dans les relations sociales, le plus important, c'était la personne, parce que même si tu as les mêmes opinions politiques qu'une autre personne, dès que tu changes un peu d'idée ou tes opinions ne sont plus assez conformes, gentilles ou des choses comme ça, ils peuvent te laisser tomber alors que même si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, si tu t'entends avec cette personne d'une manière personnelle, tout va bien. Donc c'est aussi à ce moment-là que j'ai appris que finalement, pour ce qui est des relations personnelles, les idées politiques, c'est pas ce qui compte le plus. Et vers le début de mon adolescence, c'est là que le genre a commencé à rentrer en honte. J'avais un groupe d'amis à l'époque, et dans ce groupe, la seule autre fille, la police, ça va être plus simple, était à fond dans les mouvements LGBT et tout ça. Ça a commencé quand les LGBT ont changé la manière de les appeler. C'était plus LGBT+, qu'il fallait dire, mais LGBT, puis il y a de plus. Et quand les lettres supplémentaires sont venues se rajouter, elle était ravie de nous éduquer sur ce qu'était la manière dont nous devrions nous comporter. À l'époque, nous sommes moqués un peu d'elle en comparant le nouveau nom à une formule chimique. On avait entre 10 et 15 ans vers cette période-là. Et pas longtemps après, un des garçons du groupe, un jour où Lise n'était pas là, nous a annoncé qu'il était gay. Nous n'avons pas eu beaucoup de réactions à part un simple OK, sinon tu penses quoi de ce nouveau manga? Après son coming out, je lui ai quand même demandé à qui il en avait parlé pour éviter de faire une gaffe, et il m'a dit qu'il n'avait rien annoncé à Lise. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit qu'il ne voulait pas qu'elle le sache. Elle allait lui poser beaucoup de questions et il n'avait pas envie. Je me suis rendu compte un peu plus tard, il avait sûrement peur qu'elle le réduise à son orientation sexuelle. C'est à cause de ça aussi que j'ai su que je ne rentrerai jamais dans le militantisme LGBT. Parce que pour que quelqu'un qui se dise pro, tout ça, mette mal à l'aise une personne qui était gay, je me suis dit qu'il y avait quand même des fois des problèmes. Et plus tard, Lise nous a annoncé qu'elle était pansexuelle. À ce moment-là, je lui ai demandé si c'était pas simplement un mot qu'ils ont été obligés d'inventer pour pouvoir coucher avec les nouveaux genres. Parce que j'étais toujours au fait de tout ce qui sortait, et plus de 40, ça fait beaucoup quand même. Elle m'a demandé à l'époque, du coup, si j'étais pas un peu homophobe. Moi et mon ami, on a bien ri sur le coup. À l'époque, le mot transphobe n'était pas du tout utilisé aussi souvent donc qu'elle a utilisé homophobe. Après, j'ai continué à fréquenter tout ce milieu-là parce que la communauté UF, enfin celle qu'on fréquente, est très proche de mouvements LGBT parce que c'est comme avec le féminisme, on a l'impression qu'ils sont rejetés pareil et que ça fait un peu pareil qu'avec le féminisme, c'est quelque chose de bien à accepter. Du coup, c'est assez présent dans ce milieu-là. Et c'est à cette période-là, un peu après ça, que je me suis vraiment intéressée à la transsexualité. À l'époque, je faisais pas du tout la différence entre transsexuel et transgenre. Pour moi, la définition des transsexuels, c'est simple. Des personnes qui ont le profond sentiment d'être nées dans le mauvais corps. Voilà, donc je suis partie du principe que moi, j'étais née dans le bon corps, selon cette définition. J'avais vraiment envie de comprendre à l'époque parce que quand je m'intéresse à un sujet, j'ai vraiment envie de vraiment comprendre. Et puis, ça tenait très à cœur à mon ami, cette question. Du coup, je voulais savoir. Après ça, je me suis dit, vu que je suis née dans le bon corps, je vais essayer de m'imaginer dans le corps d'un homme. Là, je serais dans le mauvais corps, vu que là, je suis dans mon bon corps. Donc, j'ai passé plusieurs mois à essayer d'imaginer ma vie comme celle d'un homme, si par magie, demain, je me retrouvais avec le corps d'un homme. Et j'en suis venue à la conclusion que je ne serais plus une femme, mais un homme, que j'aurais des deuils à faire, à porter d'enfants et d'autres choses. Et du coup, ma conclusion à l'époque, après tout ça, c'était que je ne comprenais ni les personnes trans, ni les personnes non binaires et tous les autres, mais que c'était pas grave, parce que ça ne me concernait pas. À ce moment-là, je voyais pas ça trop comme une idéologie, du coup, c'était plutôt je comprends pas et c'est pas grave, ça va pas impacter ma vie plus que ça. Après, le temps a encore passé. Et même si je restais informée des nouvelles tendances dues à certaines de mes connaissances qui étaient impliquées, je ne prenais pas la parole sur ces sujets, vu que ma conclusion était que je ne comprendrais jamais les personnes qui disaient ressentir un genre. À l'époque, je ne voyais pas encore tout à fait ça comme une idéologie. Alors, ce qui m'a fait m'intéresser à la transidentité comme un phénomène social et plus comme une simple condition comme l'homosexualité, c'est mes amis qui étaient impliqués. Il y en a qui sont de pansexuels, d'autres sont non-binaires, et j'ai même la sœur d'un ami, celui dont j'ai parlé plus tôt, qui s'est déclarée non-binaire après être rentrée au lycée. Un lycée très dans le courant LGBT, très pro-trans.
Est-ce que tu peux développer ce que c'est pro-trans pour un lycée? C'est l'ambiance,
C'est l'ambiance générale, que les élèves sachent quand ils y vont, que c'est très là-dessus. Il y a des groupes, des clubs portés là-dessus. Il y a des lycées qui sont connus pour avoir des trucs assez militants et les principaux actes militants sont tournés sur ça. C'est à peu près ça.
D'accord.
Sinon, pour moi, ça a été La période où tous mes amis, enfin la plupart, se sont lancés dans des luttes, c'est le moment où les adolescents, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, s'engagent dans des mouvements, que ce soit pour l'écologie, le féminisme ou d'autres choses. C'est vers cet âge-là. Et pour moi, cette lutte-là m'a fait bizarre parce que pour moi, c'est une lutte de la facilité, on va dire. C'est celle où tu risques le moins de perdre l'entourage social ou de te faire pointer du doigt comme quelqu'un qui serait fou de défendre ça ou ça irait pas, quoi. Ce serait pas la bonne chose à défendre. C'est un peu la lutte de facilité pour quelqu'un de notre âge qui veut s'engager. C'est la plus simple d'accès et celle où tu risques le moins par rapport à ton entourage.
Ouais, pour avoir des bons points de justice sociale, quoi,
Voilà,
facilement.
pour être un bon défenseur du bien, c'est le plus direct et le plus simple, alors qu'il y a d'autres, pour moi qui grandis dans le milieu des luttes, il y en a où tu peux perdre jusqu'à 80% de tes réseaux relationnels quand tu t'engages dans quelque chose vraiment. Nous, avec la ZAD, on a perdu une grande partie des personnes qui nous parlaient, ont arrêté de nous parler. Alors, une ZAD, c'est zone à défendre. C'est en gros la plus connue en France, je dirais que c'est celle de Notre-Dame-des-Landes, où des gens occupent une zone pour éviter que ça soit rasé ou pour reconstruire quelque chose. Pour Notre-Dame-des-Landes, c'était un aéroport. Pour nous, c'était un incinérateur. Donc, nous, on a une partie de nos connaissances qui nous ont tourné le dos. Après, il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés dans notre cercle social grâce à la ZAD, j'ai dit beaucoup d'horizons différents. Donc, ça veut dire compenser. Et puis, d'autres choses comme instruction famille, des personnes qui m'ont tourné le dos pour ça. Donc, pour moi, cette lutte-là, quand ils m'expliquaient à quel point c'était dur d'être LGBT, à quel point ils prenaient des risques, en t'engageant dans ces choses-là, je le voyais d'un œil comme quoi, un peu, c'était l'engagement où tu risquais le moins par rapport au reste de la société. En tout cas, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Parce que la plupart des gens de mon âge que je connaissais qui se sont mis à militer là-dedans ne viennent pas du milieu militant. Ils ne sont pas militants, on va dire. Pour un sou, c'est peut-être un peu violent, mais c'est quand même un peu ça. Ils avaient besoin à cette époque-là de se trouver un but, une cause à défendre. Et ça a été celle-là parce que c'est la plus simple d'accès, on va dire.
Et à la mode.
Voilà. Et à la suite, j'ai commencé encore plus à m'intéresser à ça à cause d'un événement, parce qu'il faut savoir que c'est une grosse histoire, et spécialement à la fantasy. Et donc, forcément, j'ai regardé et lu Harry Potter, et pendant les périodes où je parlais beaucoup d'Harry Potter, la plupart de mes amis, même des gens que je rencontrais juste comme ça pour discuter, me disaient, t'es au courant quand même que J.K. Rowling, elle est transphobe. On me l'a dit assez souvent, mais à chaque fois que je parlais d'Harry Potter. Et j'ai commencé par dire que je ne m'intéressais pas aux auteurs et donc que non, je ne savais pas et je m'en fichais. Je lis aussi des fanfictions et énormément de fics Harry Potter. Et les auteurs faisaient des remarques sur J.K. Rowling que franchement, c'était une horrible personne, une horrible TERF, qu'elle ne méritait aucun crédit pour Harry Potter, qu'ils vont rendre certains personnages trans parce que c'est bien fait pour J.K. Rowling. Et jusqu'à des commentaires vraiment très violents sur J.K. Rowling. La plupart du temps, c'était juste un petit truc du genre je ne cautionne pas les propos de J.K. Rowling avant chaque fic, comme un truc du genre je lis Harry Potter, mais vous en faites pas, hein, je ne suis pas transphobe, avant chaque début de fic. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu dire pour que autant de gens la détestent? Mais du coup, je suis allée voir et je suis tombée sur ses déclarations et je n'ai pas compris où était la transphobie. Et surtout, je n'ai pas compris comment des amis à moi peuvent dire qu'elle est transphobe. Du coup, je me suis dit que c'était assez simple, en fait, comment elles peuvent dire qu'elle est transphobe, c'est qu'elles ne sont pas allées voir ce que J.K. Rowling a dit, a fait. Elles ne sont pas allées voir, c'est juste que leurs amis qui, elles, sont plus engagées dans les luttes trans, leur ont dit qu'elle était transphobe et une personne à bannir, à éviter, du coup.
Et c'est sans doute des gens qui eux-mêmes ont entendu dire que, ils ont entendu dire que, ils ont
Voilà.
entendu dire que.
Ce que j'ai demandé plusieurs fois quand on me disait, mais tu sais qu'elle est transphobe, J.K. Rowling, personne n'a jamais été capable de me dire, oui, elle a dit ça. Donc, c'est moi qui suis allée voir toute seule ce qu'elle avait bien pu dire. Et du coup, c'est quand même là que je me suis mis à regarder des deux côtés. J'ai regardé à la fois des chaînes LGBT et les seules choses que YouTube voulait bien me proposer dans le sens, c'était les interviews de Dora Mouto et Marguerite Stern. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de la censure des plateformes comme YouTube et les autres plateformes d'ailleurs, surtout à Google. C'est assez bizarre parce que les réseaux sociaux t'enferment dans une seule idée. Quand tu regardes une vidéo sur les réseaux sociaux, tu finis inévitablement par avoir que des vidéos qui vont dans ce sens-là. Ça t'enferme dans tes propres idées. Mais pas sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, si tu regardes les vidéos de Dohamuto et Margaret Stern, ou même les vidéos de Rebelles du genre ou d'autres, si tu as le malheur de regarder les vidéos, bah, YouTube te propose plus ces vidéos-là, mais te propose des vidéos contre. Du genre, je débunk Dohamuto et Margaret Stern en 5 minutes, ce genre de truc. C'est extrêmement bizarre parce que c'est le seul sujet sur lequel ça fait ça. Tous les autres sujets, même des sujets que les gens diraient problématiques, tu restes enfermé dedans, mais sur celui-là, dès que tu commences à regarder de ce côté-là, bah, on te propose des vidéos au contraire. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une sacrée censure. Et là, j'ai arrêté ma première période de recherche en me disant que c'était une idéologie très sexiste. Car elle s'appuyait surtout sur les clichés, si ça aime le rose, les garçons le bleu et tout ça, pour appuyer ça, parce que moi, je ne voyais pas le rapport entre le fait d'avoir des activités féminines et masculines et le fait d'être des garçons et des filles, mais visiblement, pour eux, c'était la principale cause d'être un garçon ou une fille, c'était tes goûts. Du coup, je me suis dit que c'était quand même très sexiste et j'ai arrêté de chercher à ce moment-là. J'ai enfin pu mettre une définition au mot genre. Car avant, je ne comprenais pas ce qu'il était, car il ne m'a jamais concernée. Je savais ce qu'était un stéréotype de genre, mais le concept même me paraissait fragile. Je ne comprenais pas pourquoi les féministes en faisaient un si grand combat alors qu'il était si facile pour moi de m'en défaire de par mon éducation. C'est ironique que ce soit les transactivistes qui m'aient fait découvrir à quel point on pouvait être enfermé dans des stéréotypes. Quand j'étais plus jeune, j'ai demandé à mon père de m'expliquer c'est quoi le genre. Et il avait beau m'expliquer les constructions sociales et tout, je ne le comprenais pas. En même temps, j'étais plutôt jeune et vu que ça ne me concernait pas, vu que c'est un concept et pas une réalité, on va dire, c'est assez dur à cerner quand tu es enfant et que ce n'est pas quelque chose qui te touche. Mais du coup, c'est grâce à ça que j'ai découvert ce qu'était le genre et à quel point ça pouvait enfermer les gens. Et à cette époque, j'ai enfin pu mettre ma propre définition pour pouvoir enfin donner un sens réel à cette idée du genre. Pour moi, c'est purement et simplement une croyance. Il y a le sexe, la réalité biologique de notre corps. Presque tous nos comportements sont sexués. C'est quelque chose que j'ai observé chez les animaux et que j'ai observé aussi chez les humains en grandissant, à l'adolescence et tout. Et le deuxième critère de nos comportements, dû à notre sexe, c'est le genre qui regroupe les stéréotypes, les attentes qui évoluent selon le lieu et l'époque. Ces deux choses ne sont pas des croyances. Mais par contre, ce que les transactivistes appellent identité de genre, ça, c'est une croyance. Comme les gens qui disent avoir senti la présence de Dieu, eux disent ressentir leur genre. Et comme dans le cas des religions, la majorité des croyants n'ont pas ressenti ces choses, mais croient quand même. Ma définition n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Je pense toujours que c'est une croyance et qu'on devrait leur accorder à cette croyance les mêmes droits et les mêmes restrictions qu'on accorde aux autres. Je pense que la propagande devrait être vue comme des tentatives de convertir à une certaine vision du monde, à une certaine croyance, et que bien sûr les enfants n'ont pas à être exposés à ça. Et là, je parle bien du genre, donc du transgenre, et pas des transsexuels, qui pour moi, eux, ils souffrent d'une pathologie, parce qu'ils ne se voient pas dans le bon corps, et c'est dans la tête, mais c'est quelque chose de réel pour eux. Donc, je pense que pour ces personnes-là qui souffrent et qui, une fois passé l'âge où ils sont pleinement développés, donc 25 ans, personne ne devrait avoir le droit de faire ce qu'il faut qu'elles fassent pour se sentir un peu mieux. Mais ça reste un sujet assez délicat. Et même après avoir abouti à cette conclusion, j'en parlais à personne d'autre qu'à ma famille parce que j'étais pas à l'aise. Et c'est avec la sortie du livre Transmania et le bruit qu'il a fait, et aussi le projet de loi des sénateurs républicains, que je me suis replongée dans cette question. Et comme avant, je me suis mis à réécouter les chaînes LGBT. J'ai enfin trouvé d'autres chaînes YouTube qui parlaient de ce sujet-là, mais dans l'autre sens, comme la chaîne de Rebelles du genre ou la chaîne Dragon Bleu. Voilà, c'est avec ces chaînes-là que j'ai enfin pu voir qu'il y avait d'autres personnes qui parlaient sur ces questions-là. Et pas dans le même sens que toutes les autres. Voilà. Ça a été assez dur à trouver parce que, quand même, faut chercher pendant longtemps pour trouver ces.
On peut dire que les algorithmes nous facilitent pas le travail, ça c'est sûr.
Ah non?
Et c'est pour ça que c'est vraiment important pour les personnes qui nous écoutent de partager le plus possible et de vous abonner et de faire abonner les personnes autour de vous. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à avoir de la visibilité. Il n'y a pas d'autre moyen. Voilà.
Et du coup, c'est grâce à cette chaîne-là. Et à d'autres, et surtout parce que maintenant, je me sens plus en confiance après tout ce que J'ai cherché parce que l'argument qu'on ressort souvent pour te dire que tu n'es pas légitime de parler, c'est que tu n'es pas assez renseigné, qu'il n'y a que les personnes concernées qui peuvent en parler, que tu n'en sais pas assez. Et du coup, maintenant, je me sens assez confiante pour parler. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce témoignage aussi. Je suis très contente d'avoir trouvé cette chaîne parce que ça donne enfin un mot. Je pense que critique du genre, ça me va bien. Et puis, rebelle du genre, c'est plutôt bien aussi.
C'est un bon qualificatif en tout cas. Est-ce que tu peux développer maintenant pourquoi tu penses que cette idéologie menace les droits des femmes, des enfants et plus globalement est un problème au niveau de notre société?
Alors, pour moi, le plus grand des dangers, c'est pour les enfants, parce que les enfants voient le monde d'une manière, ça va sembler paradoxal, mais très logique, et à la fois, ils croient tout ce que les adultes leur disent. C'est-à-dire que, ils voient des faits, et on va dire à partir de ces faits, logiquement, il y a des choses qui en découlent. Donc, ils voient bien la différence entre les filles et les garçons. Et du coup, ils font la chose logique pour eux. Voilà, une fille, ça a une zézette, un garçon, un zizi. Ça, c'était la logique, on va dire, des choses. C'est la logique que les adultes disaient avant, quand on demandait c'est quoi une fille, c'est quoi un garçon. Mais quand un adulte leur dit, bah, une fille, c'est quelqu'un qui aime porter du rose, qui joue à la poupée et tout, bah, pour eux, une fille, ça va être ça. Ce sera leur vérité. C'est ce que les adultes leur ont dit qui est vrai et réel. Voilà, c'est un peu paradoxal pour moi parce que je pense que les enfants sont plus intelligents et plus conscients que les adultes sur ce genre de choses, mais en même temps font d'une certaine manière trop confiance et aveuglément confiance aux adultes sur ces questions-là aussi. Même s'ils savent que c'est vrai ce qu'ils pensent, et bah la parole de l'adulte a priorité sur ce que eux ils voient et ils savent
Oui, c'est ça, exactement. Les
dans
enfants, ils se
leur.
construisent par rapport à ce qu'on leur dit, ce que leur disent les adultes. Ils constatent, mais ensuite, ils apprennent des adultes. Et c'est pour ça que la responsabilité des adultes, c'est de leur dire la vérité, de ne pas les manipuler, de ne pas abuser de leur crédulité d'enfant, en fait. Clairement, c'est de
Pour
l'abus
moi, là,
d'enfant.
oui, c'est vraiment une construction que les enfants sont vraiment une page vierge. C'est le truc le plus simple, c'est que, par exemple, si on dit aux enfants que deux personnes qui s'embrassent et qui sont amoureux, et bah, s'ils voient deux garçons ou deux filles s'embrasser, bah, ils diront bah, c'est qu'ils sont amoureux. Conclusion logique par rapport à ce qu'on leur a dit plus tôt. Et la seule manière pour eux de penser que c'est qu'ils sont pas amoureux et qu'ils ont un truc bizarre, c'est que quelqu'un leur ait dit à un garçon et une fille qui s'embrassent, c'est qu'ils sont amoureux. Mais un garçon, une fille et une fille, bah, c'est pas normal. Si on leur dit juste que quelqu'un qui embrasse quelqu'un d'autre, c'est qu'ils sont amoureux, bah, ils le font logiquement. Toutes personnes qui s'embrassent sont amoureux, ils ne font pas la différence. Tout ça en rapport avec ce que leur disent les adultes.
Oui, très naturellement,
Pour moi,
les enfants
c'est,
ne sont
voilà.
pas dogmatiques ou homophobes.
Voilà. Ils prennent tout ce qu'on leur dit, on va dire, au pied de la lettre. Mais ils font confiance aux adultes pour les guider. C'est comme ça qu'on peut leur faire croire au Père Noël, à la petite souris et tout. Et cette idéologie leur font douter du réel et de ce qu'ils voient et savent instinctivement. Et je ne souhaite pas voir ce que ça pourrait donner dans quelques années. Et je pense surtout aux autres enfants de ma classe et de mon âge quand j'étais plus jeune qui disaient, je voudrais être un garçon pour pouvoir faire tout ça. Ma vie serait tellement mieux si j'étais un garçon. Ou pour les garçons qu'on appelait mademoiselle parce qu'ils avaient les cheveux longs et qui se comportaient légèrement comme des filles. Je pense à tous ces enfants parce que je me dis que s'ils vivaient leurs petites années maintenant, ça aurait tourné assez mal parce que beaucoup de ces enfants étaient dans des familles assez, on va dire, progressistes et qui maintenant sont bien dans ce rang-là. Du coup, je suis contente pour eux qu'ils soient nés assez tôt et j'ai assez peur pour les enfants qui naissent maintenant dans ces milieux-là.
Ok, aujourd'hui tu témoignes de façon anonyme, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Et vis-à-vis de ton entourage, est-ce que tu penses que cette idéologie, tu peux en parler facilement?
Alors, je témoigne de manière anonyme simplement parce que j'ai pas de réseaux sociaux et que mon nom s'est jamais retrouvé sur Internet et que je souhaite pas que ça commence maintenant. Je suis pas vraiment un enfant d'Internet. Je souhaite pas rentrer dans le monde d'Internet, on va dire. Donc, c'est pour ça que je témoigne de manière anonyme, puisque j'ai peur d'être connue. Je ne me sens pas vraiment en danger, surtout à cause justement des luttes, on va dire, pour des sujets qui, moi, me semblent plus importants et du coup des choses qu'on a déjà perdues. Même récemment, on a mis un frein, on a dit non à des choses et on a perdu des relations sociales à cause de ça. Des choses qui me paraissent plus importantes et pour lesquelles je pense que je me sentirais plus en danger que sur cette question-là. Du coup, ouais, je me sens pas menacée, mais et les personnes qui me quitteraient à cause de mes opinions, j'ai pas un assez grand lien avec elles, ça m'affecte beaucoup, même si ça me rendrait un peu triste. Mais voilà, sinon, je me sens pas sous pression, même s'il va, il va me falloir un peu de temps pour réussir à vraiment exprimer auprès de mes amis ce que je pense. Voilà.
Est-ce que tu as une anecdote ou plusieurs à raconter sur un événement qui t'aurait marqué concernant la transidentité ou le transactivisme?
Alors, j'ai trois choses qui m'ont marqué. La première, c'est l'histoire de cet homme transidentifié dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo. En fait, cet homme, c'est l'ami d'un ami assez proche de nous, qui est vraiment une caricature. Il a commencé par se travestir quand il était seulement avec sa femme, puis il a annoncé à sa femme que, en fait, il était une femme, donc il allait changer de nom et que maintenant ils étaient un couple lesbien. Et c'est là que sa femme a dit mais moi, en fait, non, et est partie. Et cet homme a fini par devenir lesbien avec un autre homme comme lui. Donc voilà, deux hommes ensemble.
Ça me
Moi,
fait
j'appelle ça un
toujours.
couple gay, mais
Mais les gars, c'est pas grave d'être gay, c'est pas grave. On a le droit d'être gay, c'est pas grave, c'est pas.
moi j'appelle voilà, j'appelle ça un couple gay, mais eux, ils
Mais
étaient très
oui.
attachés au fait d'être
Ah
lesbiennes.
non, ouais.
Donc,
Mais au
ils ont fait
secours.
un couple lesbien
Mais
et
gay,
on
c'est
n'a pas
bien,
eu
lesbienne, c'est bien, mais assumez, quoi.
on n'a pas eu de nouvelles de cet homme depuis longtemps, car il s'est fâché avec notre ami, car notre ami l'avait toujours pas encouragé, mais soutenu, on va dire, dans sa démarche. Il ne lui avait jamais reproché ou l'avait jamais, on va dire, dit des choses blessantes. Mais un jour, dans une conversation, cet homme s'énervait. Il parlait de GPA et s'énervait du fait que les femmes aient tellement de chance de pouvoir avoir des enfants et que quand même, elle leur devait bien ça, qu'à eux qui ne peuvent pas avoir d'enfants,
Mais oui, bien
de
sûr.
laisser utiliser leur utérus.
La
C'était
mentalité
assez
des
drôle.
incels, c'est la même chose. Les femmes, elles nous doivent du sexe, elles nous doivent des enfants, elles nous doivent tout en fait.
Alors,
Avec
que
des hommes
ces
pour
femmes
penser
ont...
des conneries pareilles, franchement.
ces femmes qui ont tellement de chance de pouvoir avoir des enfants pourraient bien lui en donner un à lui qui voudrait en avoir mais qui ne peut pas. C'est à ce moment-là que notre ami a tapé du poing sur la table et lui a dit qu'est-ce que tu racontes, c'est quoi ces conneries? Et du coup, ils ont eu une dispute et ils ne se, à ma connaissance, ils ne se sont pas vraiment parlé. Et je crois que l'homme transidentifié a déménagé et je ne sais pas ce qu'il est devenu maintenant. C'est l'histoire de l'homme lesbien.
Voilà.
Et après, les deux autres sont un peu moins, on va dire, marquantes, mais pour moi, ça a été des tournants. Et l'histoire du refuge pour femmes battues que J.K. Rowling a défendu, où j'ai eu la version transactiviste en premier, où à l'époque, je ne me sentais pas assez à l'aise, j'étais pas avec des personnes à qui je voudrais parler de ça quand c'est réglé sur la table, et je sentais pas ça que c'était assez important. Et on me disait, mais tu te rends compte à quel point elle est horrible d'avoir soutenu ce refuge qui refuse d'accueillir des femmes trans. Et pas longtemps après, j'ai eu la version bah, dans l'autre sens. Et je me suis dit, ah ouais, c'est fou comment détourner les propos et les intentions. Ils ont détourné l'intention du fait qu'il y a certaines femmes dans ces refuges qui ne pouvaient plus voir d'hommes sur le fait qu'ils ne voulaient pas de femmes trans. C'est une inversion assez bizarre. Et surtout, ce qui m'a énormément choquée à l'époque, c'est quand j'ai appris qu'ils avaient été harcelés, ce refuge avait été harcelé par les transactivistes, je me suis dit quand même, waouh. Et puis, la dernière anecdote, c'est quelque chose de tout, tout récent. J'ai vu passer une vidéo d'une manif anti-transphobie là, pour la sortie du livre, et avec une pancarte géante au milieu du truc avec mon corps, mon choix, jusque-là, tout va bien, quel que soit mon âge. Et là, ma première réaction et ma réaction honnête, c'était, mais c'est quoi cette pancarte pédophile? Et ça m'a fait vraiment bizarre parce que mon corps, mon choix, quel que soit mon âge, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est, waouh, comment les autres manifestants, comment mes amis sont pas pédophiles, à ce que je sache. ne peuvent pas voir le message sur cette pancarte qui, pour moi, est extrêmement problématique quand même.
Oui, ça crève les yeux là de commencer à nier l'âge. En fait, de toute façon, il y a quand même beaucoup chez les trans de personnes qui nient l'âge comme période de la vie, mais considèrent que c'est plus une construction sociale, un peu artificielle, comme les pédocriminels des années 80 qui disaient que l'amour entre des enfants et des adultes, il y a pas de problème, etc. L'âge, après tout, c'est subjectif, c'est dans la tête, etc. C'est exactement la même démarche en fait. Et ouais, c'est hallucinant que des personnes qui se croient progressistes puissent marcher dans ce délire, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont quand même complices de l'abus d'enfants, là, clairement.
C'est un truc qui m'a fait extrêmement bizarre et je pense que c'est quelque chose dont je vais parler à beaucoup de mes amis parce que pour moi, ça peut être quand même une sonnette d'alarme pour quelques-unes parce que c'est quand même assez gros.
Oui, c'est grave. Il
Voilà.
faut protéger les enfants. Par définition, les enfants, comme tu l'as dit juste avant, ils ne peuvent pas se protéger. C'est les adultes qui ne doivent pas les agresser.
Voilà.
Et donc, voilà la dernière question. Nous arrivons à la fin de ton témoignage. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Bah, j'aimerais partager une histoire qui m'a été racontée des dizaines et des centaines de fois par mon père qui aime beaucoup cette histoire. C'est passé quand j'étais petite. On jouait avec ma sœur, comme d'habitude, à grimper dans un arbre et tout. Et une dame s'est approchée de mon père pour un énième commentaire habituel du oh là là, vous avez des garçons manqués vraiment. Et là, avant que mon père ne puisse répondre, une petite dame d'un certain âge s'est tournée vers cette personne et lui a dit non, non, ce ne sont pas des garçons manqués, ce sont des filles réussies. Et cette histoire est restée avec moi pendant longtemps. J'ai adoré cette phrase parce que c'était vraiment quelque chose qui allait très bien avec ce que je vivais, que j'aimais pas qu'on m'appelle un garçon manqué. J'étais une fille et j'étais très fière, on va dire, d'être une fille. Parmi les garçons, parce que j'étais tout le temps avec les garçons, mais j'étais très fière d'être une fille parmi eux. Et du coup, cette histoire est restée avec moi et c'est quelque chose que j'aurais aimé que beaucoup plus de petites filles puissent avoir.
Oui, alors on remercie ensemble cette dame et soyons cette femme qui est capable de s'interposer face à une parole sexiste, face à des moments qui marquent toute une vie en fait et qui peuvent être tellement déterminants dans la vie. On n'est pas des meilleurs garçons. Toutes les petites filles ont le droit de jouer à ce qu'elles veulent. Ça change de rien à qui elles sont. À qui elles sont. Donc merci la dame du parc. Merci la dame. Soyons cette dame. Soyons cette dame. Ça peut être aussi une des définitions de la sororité.
Et je me suis dit maintenant que vu que les temps avaient changé, la dame aurait sûrement dit oh, au lieu de vous avez des garçons manqués, elle aurait peut-être dit vous avez des garçons. Et je trouve toujours que non, des filles réussies collent aussi pour cette situation-là.
Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.